ce matin, je veux commencer avec vous une nouvelle série de prédications qui est dans la dimension, c'est quelque chose qui est venu dans mon cœur, qui a commencé par, et je pensais de faire une parole de ça, mais alors que de plus en plus je regardais la chose et qu'il y avait des affaires qui se développaient à l'intérieur de mon cœur, et des sujets et des choses, j'ai commencé à comprendre que tout ce qui prenait place, je pouvais pas le faire dans le temps d'une réunion d'un dimanche matin, mais plutôt que cela devait être fait davantage dans une série de prédications. Et le titre que j'aimerais donner à cette série ce matin, c'est « Marcher sur le chemin du divin ». D'être capable de marcher sur le chemin du divin. Et des fois, on se retrouve dans des situations particulières et Dieu nous appelle à comprendre et à réaliser. Je pense qu'en tant que chrétien, nous devrions être de ceux qui marchent sur le chemin du divin, que dans nos vies, dans nos cœurs, on peut marcher dans toutes sortes de directions, on peut marcher sur toutes sortes de chemins, on peut aller dans toutes sortes de directions à l'intérieur de nos vies, mais il doit y avoir ce désir de marcher, de comprendre que Dieu nous appelle à marcher sur ce chemin divin. Et de marcher sur le chemin divin, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile en soi, qui toujours a une dimension de facilité. On pense souvent que le chemin divin, c'est le chemin où tout semble bien aller, où on est toujours heureux, où tout va toujours bien à l'intérieur des foyers, des couples, des familles, le travail, et que toutes choses prennent place et que tout va bien. Mais je pense que de marcher dans le chemin divin, c'est de marcher dans le plan de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Et ce qu'on va faire à travers les semaines, pas la semaine prochaine, mais probablement on va continuer cela en 2019, mais lorsqu'on regarde dans la parole « Marcher sur le chemin divin », il y a plusieurs endroits et plusieurs dimensions qui nous amènent à comprendre que le chemin divin, alléluia, c'est le chemin que Dieu nous donne de marcher. Ce qu'on va faire, on va reprendre certaines situations ou certaines choses qui ont pris place dans la parole de Dieu et on va comprendre ensemble que ces hommes et ces femmes ont marché sur le chemin divin et pourtant il y avait toutes sortes de situations qui prenaient place. Mais Dieu était celui qui était derrière tout ça, qui était l'auteur de la direction qui prenait place. Et ces hommes, ces femmes n'ont pas toujours compris l'ampleur de ce qui prenait place à l'intérieur de leur vie. Ils n'ont pas toujours compris toute la dimension et la grandeur de ce qui était en train de prendre place pour leur propre vie, ou en même pour leur propre famille, ou encore pour le peuple de Dieu dans la généralité. Et ce matin, ce que je veux faire avec vous, ce que je veux m'arrêter dans la première dimension du chemin divin, je veux parler du chemin où Dieu contrôle toute chose. Où Dieu contrôle toute chose. Et pour ce faire, j'aimerais regarder un texte dans la Bible, dans Actes chapitre 27, à partir du verset 1. Et bien sûr, c'est le texte où l'apôtre Paul se retrouve dans une dimension où il va embarquer dans un bateau et on sait tout ce qui a pu prendre place. D'ailleurs, je vous encourageais cette semaine de faire quelque chose à la maison, de prendre la parole et de lire le texte des Actes, le livre des Actes, le chapitre 27 et le chapitre 28, de toute cette histoire, de ce que l'apôtre Paul va vivre, et de le lire dans une dimension où cet homme est en train, dans une période importante de sa vie, est en train de marcher sur le chemin divin, et de permettre au Saint-Esprit, alors que vous allez le lire, ne faites pas seulement que le lire dans la dimension de lire quelque chose, mais j'aimerais vous encourager de prendre dans vos temps de culte personnel, de prendre ces deux chapitres, de le lire avec une ouverture, en méditant et en permettant au Saint-Esprit de vous parler pour votre propre vie, d'adresser pour votre propre vie, d'être capable de le faire en se questionnant par rapport à certaines dimensions à l'intérieur de vos vies. Et l'apôtre Paul, dans ce moment, je pense qu'il y a une situation bien particulière où l'apôtre Paul ne semble rien nécessairement contrôler, mais où la chose, où la vie de Paul à ce moment-là est sous le contrôle de Dieu. Ça nous dit dans le chapitre 27, verset 1 du livre d'Isaac, « Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie où on remit Paul et quelques autres prisonniers au centenier de la cohorte, Auguste nommé Julius, nous montâmes sur un navire d'Adriamite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque et tous les autres Macédoniens de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes Macédon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir les soins. Alors, on se retrouve dans un texte où Paul, sa vie est remise entre les mains de quelqu'un. Et des fois, dans des situations comme celle-là, on pense qu'alors qu'on se retrouve dans une situation d'incontrôle, l'apôtre Paul n'était plus dans une dimension où il gérait là où il devait aller. Il n'était plus dans une dimension où il choisissait. L'apôtre Paul va dire, par exemple, à quelques autres endroits dans le livre des Actes, « Le Saint-Esprit m'a conduit à, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller à tel endroit, de faire telle chose, ou encore le Saint-Esprit m'a conduit d'aller vers telle et telle église et de faire telle et telle chose. » Mais dans cette situation particulière de la vie de Paul, il semble que c'est Paul qui est pris puis qui est conduit d'un endroit à un autre. Il n'est pas dans la dimension que le Saint-Esprit me montre d'aller, de faire, ou de me montre simplement que je dois aller à tel endroit ou de ne pas aller à tel endroit. Le texte dit qu'on prie, qu'on remit Paul et d'autres prisonniers, parce que Paul faisait partie des prisonniers, entre les mains de cet homme. Et là, c'est dit qu'il partit de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baignait la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignions la hauteur de Sindes, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Chypre, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine. Et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lassé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Seigneur, on veut simplement te prier avec simplicité ce matin, que cette parole puisse nous instruire, nous enseigner, et que Dieu, cela nous donne de comprendre qu'à l'intérieur de nos vies, alors que des fois on peut être dans des sentiments qui semblent qu'on a perdu ou qu'on n'a pas le contrôle des choses et que ça l'amène toutes sortes de dimensions à l'intérieur de nous. Et apprends-nous à te faire confiance et savoir que tu es le Dieu qui est celui qui contrôle et qui nous amène dans ce que tu as et dans ce que tu désires pour nos vies. Et Seigneur, ce que on a besoin, c'est de cette foi et cette confiance en toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen et amen. Si dans ce texte-là, et vous allez être d'accord avec moi, que cet homme-là est celui, le centenier, est celui qui a écouté le pilote, et le patron du navire dans lequel il se retrouvait. Et on se retrouve dans une dimension où Paul, alors qu'il est en train de parler dans la situation dans laquelle il est, cet homme-là, le centenier, a un choix. J'écoute le pilote, un homme, un marin, quelqu'un qui côtoie, quelqu'un qui est là et qui conduit, qui fait toute cette... Ou j'écoute un prisonnier de ce qui est là. C'est la situation, je ne pense pas que ce centenier-là est celui qui a fait avec méchanceté. Il a simplement pris la décision dans la dimension de l'homme qui semblait être le meilleur positionné pour être capable de répondre. Et d'ailleurs, même le mot « écouta », ça a le plus de... Il y a vraiment pas juste une dimension d'écouter ou d'entendre à l'oreille. Il y a une dimension de persuasion qui prend place. Dans le mot grec, il y a une pensée de persuasion que cet homme-là s'est laissé persuader par le centenier. Mais pourtant, on peut se poser la question à ce moment-là, qui avait raison? Est-ce que Paul avait raison et cet homme avait raison? Et ce matin, je vais dire d'emblée, mais je vais y revenir dans un instant, que les deux hommes avaient raison. Que dans cette dimension-là, de seulement dans le texte qu'on est là, on va voir un texte un peu plus loin tantôt, mais dans la dimension dans laquelle on se retrouve là, je pense que les deux hommes avaient raison. Dans lequel ils se retrouvent et dans lequel ils vont simplement être là, et puis que ces hommes, cet homme-là va être là. Et dans les situations dans lesquelles on semble ne pas avoir le contrôle, c'est des situations qui n'est pas plaisantes. Et non, c'est nécessairement cela, mais souvent ça va, non seulement c'est pas plaisant, mais souvent de fois, ça va semer autre chose. Ça va semer de la peur, ça va semer de la crainte, ça va semer des fois même la perte de contrôle pour nos propres vies, nos émotions. On va commencer à embarquer dans certaines choses. La colère peut prendre place, la peine peut prendre place, le désespoir peut prendre place. On peut penser qu'il n'y a rien, que c'est fini, qu'il n'y a rien qui va se passer à travers ces situations-là à l'intérieur de nos vies. Alors, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, Dieu est celui qui va amener Paul à simplement déclarer cette parole-là. Mais j'aimerais nous amener dans la dimension que Dieu avait un plan et un contrôle, une direction par rapport à la vie de Paul dans ce moment-là, à l'intérieur de sa vie. C'est dit à ce moment-là que dans la situation, dans le verset 21 d'Actes chapitre 27, le verset 21, ça dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Là, ils se retrouvent sur le bateau, ils sont dans la tempête, toutes les situations prennent place. Et là, l'apôtre Paul va dire ceci. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais lorsqu'on regarde le texte, à la lumière de cette parole-là, je me questionne. Parce que si Paul n'aurait pas parti, ça veut dire que Paul ne se serait pas retrouvé sur l'île de Malte. Parce que l'île de Malte, on va le voir tantôt, je vais le montrer, mais l'île de Malte n'était pas un endroit nécessairement dans lequel on accostait et on se retrouvait à ce moment-là. Je crois davantage et je pense davantage que la situation est que ce centenier n'a pas écouté la vie de Paul, mais que Paul a déclaré quelque chose la première fois pour que cet homme commence à comprendre que Paul, ce qu'il déclarait dans la deuxième reprise de ce qu'il va dire les choses, dans la deuxième fois, ce centenier-là puisse être persuadé que ce que Paul est en train de dire devient une vérité. Et ma question est celle-ci, je n'ai pas toutes les réponses parce que en même temps, on n'a pas la certitude d'eux, mais en même temps, on peut penser certaines choses. Si l'apôtre Paul n'était pas au contrôle d'eux et ne connaissait pas toutes choses à ce moment-là, parce que je pense que Paul n'avait pas toute la compréhension de tout ce qui prenait place à ce moment-là même, jusqu'à temps qu'un ange vienne et le visite à ce moment-là. Et ma question est celle-ci, et si Paul, Dieu s'était plutôt, dans le sens, avait dit la première parole de pas qu'elle était la situation, que la navigation ne serait pas sans péril, alors les deux avaient une vérité. Le pilote de dire on va quitter, mais ce que Paul disait, on va vivre des situations qui vont être difficiles, c'était aussi vrai. Mais là, il se retrouve dans la situation, et Paul dit cela, fallait m'écouter. Mais si, dans la réalité des choses, la volonté de Dieu était qu'il quitte pour partir, pour aller en Italie, et que Paul, ne connaissant pas tout, lui aurait probablement resté à l'endroit et passé l'hiver là. Mais Dieu, dans sa volonté, avait une certaine direction pour amener à un certain endroit, pour accomplir ce qu'il veut faire. Et ma pensée est davantage celle-ci. Et si la première parole donnait plutôt, alléluia, un crédit dans la capacité de quelqu'un de dire quelque chose et que la vérité devienne davantage importante. Est-ce que vous me suivez? Que Paul, alors qu'il a dit la première fois, on va vivre des choses et peut-être qu'on ne devrait pas et toute la situation, mais on va vivre des situations, qu'à ce moment-là, la deuxième fois, quand là, il se retrouve dans la situation et le verset de 23, l'apôtre Paul va dire, encore du chapitre 27, ça dit, « Un ange à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Vous savez, quand il dit ça, là, il n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, puis qui connaît, puis qui a une relation bien intime avec le Seigneur. Il parle à un centenier païen, il parle à quelqu'un qui n'a pas vraiment une relation intime. Puis quand tu dis une chose comme celle-là, j'étais dans la nuit et un ange de Dieu m'a visité. Puis là, il va faire cette déclaration et m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il en a été dit. Mais nous devons, et ça c'est cette portion-là qui n'a jamais été dit jusqu'à maintenant, mais nous devons échouer sur un île. Il semble dans le texte que cette portion-là vient de la révélation de l'ange qui s'est révélé à lui, alléluia, durant la nuit. Il semble que cette portion-là, Paul est en train de comprendre qu'il y a une autre dimension à l'intérieur de son service qui va prendre place et qui va se retrouver à un endroit qu'il n'a pas choisi d'être, qu'il n'a pas contrôlé, qu'il n'a pas planifié, qu'il n'a pas entendu de dire « Dieu est en train, Dieu m'envoie » alors qu'il est à Jérusalem, puis que là, il sait qu'il va partir pour l'Italie, qu'il va se prendre, qu'il va être amené sur le bateau, il va faire le voyage pour se rendre en Italie, mais tout devrait bien aller. Mais à ce moment-là, alors que cette révélation-là, il y a une portion que Paul dit d'une révélation qui semble qu'il a reçue de la part de Dieu à ce moment-là, ça dit « Mais nous devons échouer sur une île. » Alors peut-être que cette partie n'était pas aussi claire pour Paul en ce qui concerne l'île qu'au moment où Dieu, alléluia, va se révéler sur le bateau. Que ce qui était beaucoup plus clair depuis longtemps, c'est qu'il se retrouverait devant les grands, devant les rois, devant les personnes qui étaient là, qui donnaient des directions, parce que c'était quelque chose que Dieu lui avait dit, quelque chose que Dieu avait déclaré. Mais là, il se retrouve à ce moment-là dans ce voyage qui n'est pas sous un contrôle de ses propres décisions, de sa propre volonté, et va se retrouver sur ce bateau, et ce bateau se retrouve à être, alléluia, dans une situation particulière. Et j'aimerais vous dire ceci, que bien de fois, dans nos propres vies, nous ne comprenons pas tout. Que bien de fois, dans des situations particulières, où on a pensé tout gérer, tout mettre en place, de mettre les choses en place, on se retrouve dans des situations comme Paul, et dans lequel on est là, et la seule chose qu'on peut faire, c'est faire confiance à Dieu, et de comprendre que Dieu, alléluia, que le Seigneur est celui qui, lui, est au contrôle de toutes choses. Parce que si Dieu est au contrôle de toutes choses, on a besoin de réaliser que Dieu est même maître des vents. Que Dieu est même maître des vents. Lorsque je lis ce texte-là, de Acte 27, verset 7, dit « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Sindre, où le vent ne nous permit pas d'aborder. » Quand je lis cette portion-là du texte, je me pose la question, je me dis, est-il possible que Dieu, alléluia, a fait que le vent a soufflé pour qu'il n'arrête pas, qu'il ne puisse pas passer là où eux avaient planifié d'accoster, d'arriver et de passer. Ou encore, il est dit au verset 13, « Un vent léger, vint du sud, vint souffler, et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Chypre, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Huraclion se déchaînant sur l'île. » Est-ce que Dieu est maître du vent calme et du vent qui se déchaîne? À cette question-là, je pense que la réponse est oui. Que les moments où le vent semble être calme, c'est un vent impétueux, un vent qui est là, qui prend place à l'intérieur de nos vies, ça semble être un bon vent, tout semble être là. Mais là, d'un coup, il y a la tempête qui prend place. Est-ce que Dieu dans nos vies est maître de toutes choses, de chaque vent qui prend place à l'intérieur de nos cœurs? Nous, on aime davantage naviguer, alléluia, lorsque le vent n'est pas trop déchaîné, lorsqu'il n'y a pas d'huraclion et que tout semble être correct, que les choses vont bien, nos finances vont bien, le couple vont bien, la famille vont bien. Wow, tout est beau au travail, les choses se passent bien, pas trop de difficultés, des petites affaires, mais qu'on peut juste continuer à gérer puis à contrôler comme ça nous fait du bien de le faire, de le gérer. Puis là, dans tout ça, on bénit comment Dieu est celui qui le fait. Est-ce qu'on peut être capable d'être reconnaissant au Seigneur pour les vents huraclions qui prennent place à l'intérieur de nos vies? Parce que ces vents-là, on ne les aime pas. Parce que ces vents-là, on ne les aime pas. Je veux juste vous rappeler dans la Bible, alléluia, ce texte-là, alors que Jésus est dans la barque avec les disciples, c'est Jésus qui les a demandé d'embarquer, d'aller, de passer de l'autre côté. Et ça dit dans Marc chapitre 4, verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et ça dit que le vent cessa, il y eut un grand calme. Quand je lis ça, je pense que le Jésus qui a calmé la tempête, le vent et la mer dans cette barque-là aurait pu le faire pour Paul si Paul n'aurait pas eu besoin de se trouver sur l'île de Malte. Et ça dit après ça dans le texte au verset 41, de Marc chapitre 4, ça dit « Ils furent saisis d'une très grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, je suis en train de nous amener la pensée que Dieu est celui qui avait la possibilité de calmer la tempête que Paul, dans laquelle il se retrouvait. Paul n'a jamais été dans une situation de danger de mort pour sa vie. Je veux juste vous dire ceci, que Paul n'a jamais été dans cette situation-là d'incontrôle, de décision dans le sens de lui, de « je décide d'aller en Italie ou à Rome, ou je décide de rester à Césarée ou peu importe, je n'ai pas cette décision-là. » Mais même s'il n'y avait pas la possibilité de décider, quand le centenier a dit « Paul, prends ton stock, c'est là qu'on s'en va. » Il s'est retrouvé, il ne s'est pas roulé à terre sur le bord de la plage. Puis de commencer à courir, puis ils n'ont pas besoin de courir dans la ville dans laquelle ils ont embarqué dans le bateau. Même s'il y avait un sens de révélation que les choses étaient pour être difficiles. Mais en même temps, je ne pense pas que Paul comprenait la totalité de ce que Dieu était pour faire à travers ce voyage, de tout ce qui prenait place dans cette situation-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu est maître des vents, que dans les situations que nous ne contrôlons pas, je veux vous assurer, frères et sœurs, d'une chose, que si vous êtes dans un moment de temps calme à l'intérieur de votre vie, bénissez Dieu pour ce moment-là. Mais peut-être êtes-vous aussi dans un temps où le vent huraclion a pris place et que c'est en train de souffler, que peut-être vous aviez planifié, abordé ou simplement accosté un endroit, mais que le vent était contraire et que le vent n'est pas en train de vous permettre d'accoster ou d'aller au port de ce que vous aviez pensé planifier. Mais j'aimerais vous dire ceci, qu'il est possible que le vent, alléluia, soit soufflé de la part de Dieu pour vous amener dans une direction à l'intérieur de votre vie, pour faire des changements, pour vous amener à quelque chose dans lequel Dieu est celui qui est en train de faire et de simplement d'agir. Lorsqu'on regarde le texte, et on va dans Actes chapitre 27, verset 13, ça dit un vent léger, on l'a lu ensemble, vint à souffler, et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Je veux simplement vous montrer ce matin une carte pour comprendre quelle est la chose. Lorsqu'on regarde sur la carte, c'est, il se retrouve où on voit où ce qui est écrit Crète, à l'Azaïa, ok? C'est là où ils sont accostés, là. Leur désir à eux, c'est pas de se rendre en Italie. C'est le désir pour eux, c'est de se rendre jusqu'au port, le point noir que vous trouvez au côté, là. C'est pas partir, puis on part, puis on se rend à Syracuse et de tout le reste. C'est pas ça leur vision. Leur vision, c'est le point noir juste au côté. Pourquoi? Parce que là où ils étaient, ils considéraient que c'était pas un bon port pour passer l'hiver, que c'était problématique. Alors, ce qu'ils ont voulu, c'est simplement de dire, on va essayer de trouver un port, on va se rendre à un endroit pour être capable d'accomplir et d'être là, puis on verra à ce moment-là. Mais quand ils ont pris la décision de quitter, et c'est lorsqu'ils sont là, que Paul va dire que je vois que le restant, parce qu'il y a eu des difficultés pour se rendre là, ça ne s'est pas fait avec facilité. Pour se rendre à l'Azaïda, là, à cet endroit-là sur la carte, c'est sur le texte, ça dit un certain nom, là, mais... Alors, lorsqu'ils ont parti de Césarée, ils se sont retrouvés là, à Sidon, ils ont été à Myre, et là, ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Et c'est là que Paul va dire, je vois pas, ce que je vois, c'est que là où on va faire, on va se retrouver, puis le voyage va être difficile. Ça sera pas sans danger pour nos vies, puis même pour la cargaison. Mais eux, on va se dire, écoute, on n'a pas tellement loin à faire. Se croyant maître de leur destin. Parce que la réalité, c'est, hey, on a juste un petit bout à faire. On va essayer de longer, puis on va essayer de se rendre, puis on va essayer de faire ça, puis on verra, puis on va probablement y arriver. Puis le pilote a dit, écoute, ça devrait être correct. C'est ça qu'ils ont mentionné dans la chose. Ils pensaient que toutes les choses, et le texte dit qu'ils se croyaient maître de leur destin. Mais le mot maître, c'est pas l'idée de nécessairement de tout, c'est l'idée d'avoir la capacité. Dans le terme encore le grec, ça a la pensée de j'ai la puissance, j'ai les capacités, Je suis assez puissant, je suis assez capable, et c'est ça que le texte dit, se croyant maître, se croyant assez capable, se croyant assez avec avoir assez de capacité, de puissance, on va arriver puis on va être capable de se rendre là où on a décidé qu'on devrait être capable de se rendre. Mais le texte nous donne de voir que bientôt, le texte verset 14 va dire, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraclion se déchaîna sur l'île. Et l'île, c'est là où on a vu, là, juste à revenir en arrière, sur l'île qui est là, sur l'île de Crète. C'est là, là, que le vent se déchaîne. Dans cette portion-là, je veux juste vous dire ceci, le vent, là, c'est pas toute la mer Méditerranée qui s'est commencée à se bouleverser, là. C'est pas partout dans le monde que ce vent-là a soufflé. Probablement une partie assez grande, mais c'était l'important, c'était pour sur leur propre situation à eux-mêmes. Et à travers ces moments-là, on a besoin de réaliser, alléluia, que Dieu est celui qui est là. Et dans ces situations-là, dans ces moments-là, le texte nous donne, le verset 15 nous donne de comprendre quelque chose. Nous donne, et ce matin, j'aimerais nous amener de qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là où on semble perdre un certain de contrôle à travers tout ça. Je pense que le texte, j'aurais pu emmener bien des affaires, ma prière et celle-ci, lorsque vous allez lire à la maison, que le Saint-Esprit puisse amener des choses à l'intérieur de votre cœur. Mais le verset 15 dit ceci, « Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. » Je pense que le texte amène l'idée de ce qu'on va relâcher les choses. Et encore là, quand ça dit sans pouvoir lutter contre le vent, dans la pensée du texte, c'est pas seulement de dire on y arrivera pas, mais c'est si on continue à lutter, le bateau t'offrera pas l'eau. Ok, j'ai lu une traduction qui amène un peu plus cette pensée-là. Et c'est la pensée un peu qui est là de ce qui est dit. Ça dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Le texte amène l'idée d'une bataille entre le bateau et le vent. Et que la réalité, si il laisse pas aller, la bataille va faire que probablement le bateau va se briser, là. Qui vont amener dans la situation à ce que le bateau va échouer, va être brisé, va se rendre. Alors, ils ont pris la décision de laisser aller. Je dirais ceci, frères et sœurs, nous devons apprendre à l'intérieur de nos vies, apprendre à relâcher quelquefois. De temps en temps, c'est quand les rames, ça marche plus. Peut-être que c'est le temps de simplement être capable de relâcher. Peut-être qu'on n'a plus nos capacités de ce qu'on essaie, puis que là, on se bat avec quelque chose. Puis la réalité, c'est que si on relâche pas, le navire va se défaire. Et trop souvent, en tant que chrétien, on passe aux côtés de cette dimension-là à l'intérieur de nos vies. On se retrouve dans des affaires où tout est cassé, où tout est brisé. Et le problème, c'est qu'on aurait dû relâcher. On aurait dû être capable de relâcher, c'est pas abandonner. C'est être capable de remettre entre les mains de celui qui contrôle tout. Parce que dans le texte, c'est Paul et les autres vont aller où, vont arriver où? Là où ce que Dieu avait dit, alléluia, à Paul qu'il arriverait sur une île. Et ma question est celle-ci. En relâchant, ils ont juste permis à Dieu de les amener là où Dieu avait dit qu'il les amènerait, sur cette île de Malte. Je veux même aller plus loin. Est-ce qu'il est possible que si Paul aurait continué à dire, non, lâchez pas, puis on va y arriver, puis on va... Il se serait juste battu contre ce que Dieu, là où Dieu était en train de les amener, par le sentiment de sécurité, d'un désir de gérer, de contrôle, de prendre les choses en main. J'aimerais nous dire ceci, qu'on a besoin de comprendre ceci, comprendre que des fois on a besoin de juste la meilleure chose à faire, c'est de dire, Seigneur, je vais mettre entre tes mains, puis Dieu, je vais juste faire et aller, là dans ce que tu désires que je puisse faire et aller. Soit mon travail, soit dans ma vie de foyer, soit dans ma situation de vie. Je veux vous dire ceci, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je veux juste donner une image pour nous donner de comprendre cela. Dieu a tout créé. Il a même créé celui qui cherche à prouver que Dieu n'existe pas. C'est vous dire s'il est sûr de lui. Dieu, là, il est certain. Moi, je pense, moi, de temps en temps, j'ai une impression d'eux, mais Dieu sait les choses. Le Seigneur savait les choses. Quand Dieu a parlé à Paul sur le bateau, il a déclaré ce que Dieu savait. La capacité dans la protection, dans l'accomplissement de là où il était arrivé. Eux autres ne savaient pas parce qu'ils vont être 14 jours, 14 nuits dans la noirceur, dans la faille. Il n'y a rien pour se repérer. J'aurais pu embarquer dans cette dimension-là. Il n'y a pas d'étoiles. Maintenant, on a des GPS, puis des affaires, puis électroniques, puis des affaires qui nous amènent. Mais à ce moment-là, c'était quelques instruments. Et ce qui les servait, surtout, c'était la nuit, la lune, les étoiles. Puis le jour, c'était le soleil. Mais là, ça fait 14 jours qu'ils ont rien. Puis que là, ils se laissent aller. On va arriver où? Dans la dimension de l'endroit, c'est on va arriver à quel endroit? On a besoin de comprendre des fois la différence entre la gestion et le contrôle. Je vais vous dire que Paul sur le bateau est celui qui a fait une gestion. Mais il n'a pas contrôlé. Et des fois, dans les situations de nos vies, on ne réalise pas la différence. Nous, on est toujours dans le contrôle, alors que Dieu veut nous amener à faire la gestion, de bien faire les choses dans la situation que je ne contrôle pas. Dieu va parler à Paul, puis il va dire, « Paul, personne ne doit quitter le bateau, personne ne doit être là, vous allez devoir jeter des choses par-dessus bord, mais on a besoin de permettre au Seigneur d'accomplir et de faire. Dieu est celui qui est au contrôle. Dieu sait comment faire les affaires. » Et lorsqu'ils s'est retrouvés à ce moment-là, la meilleure chose pour eux était de laisser aller. Eux voulaient aller à Rome, mais alléluia, Dieu voulait l'île de Malte. Et comme Paul ne pouvait pas contrôler, Dieu, alléluia, est celui qui a fait les choses en fonction de ce qu'il était pour faire. On a besoin de relâcher. J'aimerais nous dire ceci, j'aimerais nous amener dans une pensée que le texte nous révèle. Et si les 275 personnes dans le texte dans lesquelles on se retrouve, lorsqu'on regarde ça, tu dis, le texte dit qu'on a remis Paul entre les mains du centenier. Mais la parole dit autre chose. La parole dit autre chose, parce que la parole dit que plutôt les 275 personnes qui étaient des passagers du bateau, étaient entre les mains de Paul. Puis c'est la Bible qui le dit, ça dit au verset 23, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. » Alors ça, c'est clair. « Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Alors on commence à comprendre quelque chose. On commence à comprendre que la vie de Paul qui était entre les mains de Dieu, c'est l'un de ceux des seuls sur le bateau qui semble que la vie d'un homme est entre les mains de Dieu qui a littéralement de dire « Je veux te servir, je veux marcher avec toi, je place ma vie entre tes mains. » Et à ce moment-là, dans ce qui semble être que sa vie est mise entre les mains de ce centenier-là, la Bible dit le contraire. La Bible dit, alléluia, que Dieu a mis la vie de ces 275 personnes, pour y lire dans le texte, c'est ce que ça dit, entre les mains de Paul. On a besoin de comprendre de là où sont les vraies choses, que là où sont les vraies affaires. Et à ce moment-là, on a besoin d'entendre ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut accomplir et ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nos vies. Vous savez ceci, le moment où ils ont dérivé, c'est un moment important. Le texte dit que c'était pendant un certain nombre de jours. Et il y a un commentateur qui fait un calcul qui est juste intéressant, qui n'est pas scientifique, mais qui est juste intéressant. Lui dit que probablement dans ce temps de dérivée, ils n'ont pas fait 2-3 kilomètres, mais ils ont probablement dérivé sur à peu près 878 kilomètres. T'es loin de chez vous, là. T'es loin de la maison. 14 jours à peu près, il fait nuit, là, tu... OK, ça ne donne plus rien, on ne peut pas. On fait juste laisser aller, puis tu dérives pendant à peu près 878 kilomètres, tu te sens loin de la maison. Là. Puis tu ne sais pas trop où ce que tu es, parce que dans le texte, vous allez lire, tu ne savais pas. Mais je veux juste attirer que peu importe comment tu es loin, Paul va dire quelque chose, qu'un ange va venir de Dieu. Et là, le texte dit, « À qui j'appartiens et je sers. » Vous savez ceci, peu importe quand on ne gère pas les choses comme on voudrait ou on ne contrôle pas comme on semble, cela nous ferait du bien de... Je veux juste nous dire ceci, cela n'enlève jamais à qui nous appartenons et qui nous servons. Et à ce moment-là, on peut avoir besoin, mais on a besoin de se rappeler, tu appartiens à qui, mon frère et ma sœur, aujourd'hui? Tu sers qui? À ton travail, tu es en train de servir qui? À ton travail, tu appartiens à qui? Dans ta maison, tu appartiens à qui? Tu sers qui? Dans l'église dans laquelle tu es, tu appartiens à qui? Tu sers qui? L'apôtre Paul était bien loin de la maison, 800 quelques kilomètres, on peut supposer, à ce moment-là. Mais sa vie était toujours entre les mains de Dieu. Et à ce moment-là, il va avoir besoin de jeter par-dessus bord certaines affaires, de prendre le bord. Et des fois, dans des situations où on sent loin, c'est en ce moment-là, Dieu va nous amener à jeter des choses par-dessus bord. Ça dit au verset 18 et 19 qu'ils étaient violemment battus par la tempête et qu'ils ont eu besoin de jeter la cargaison à la mer. Et ça dit même qu'ils ont dû faire des choses et que même le navire et celui qui la cargaison, qui les charriait, les bagages, ils ont dû jeter par-dessus bord. Qu'est-ce que Dieu, dans ces moments-là, nous demande d'abandonner? Qu'est-ce que Dieu vous demande ce matin? Qu'est-ce que Dieu me demande de jeter par-dessus bord? Des situations qui prennent place, des fois le sentiment de gêne, de contrôle, des fois de simplement l'orgueil de certaines affaires, qu'on va être capable d'arriver, que je suis capable, j'ai décidé d'aller à cet endroit-là sur l'île de Crète, à ce port-là. Mais des fois, le Seigneur nous amène dans une dimension qu'on s'aperçoit que le Seigneur veut qu'on commence à acheter des choses par-dessus bord pour réaliser dans nos vies qu'on a besoin de lui, alléluia, qu'on a besoin. Et ça dit même que les agrès du navire, et pour moi, cela, c'est à une dimension de, c'est plus juste la nourriture, le butin et tout ça, mais c'est ce qui nous servait à diriger le navire. Les rames, les affaires, prenez tout ça, jetez ça par-dessus bord. Fini, on n'aura pas besoin. Des fois, à un moment donné, c'est peut-être là où le Seigneur nous amène, d'être capable de jeter par-dessus bord. On n'a pas besoin de comprendre que Dieu est celui et de comprendre que Dieu est avec nous. Mais en même temps, on a besoin de saisir qui on est, nous. Dans le texte, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Dans le texte qu'on se retrouve, alléluia, on a besoin de comprendre qui nous sommes à travers tout ça. Et comment Dieu est celui qui prend soin de nous à travers tout ça. Dans le texte, ça dit ceci, qu'alors qu'ils sont arrivés sur l'île de Malte, enfin on semble être en sécurité, on se retrouve, le texte dit, au milieu des barbares, le texte dit, et là ils se retrouvent là, et puis dans la situation où il y a un feu, où il se réchauffe, ça fait déjà plusieurs jours, c'est un bateau, se fait brasser de part et d'autre, c'est de la misère, on mange pas trop, un dernier lunch après 14 jours ou presque, puis là on jette les affaires à la mer après, et là ils se retrouvent dans cette situation-là, puis alors qu'ils se retrouvent, alléluia, dans la situation, à ce moment-là, Paul se retrouve là, et alors qu'il vient pour mettre des affaires dans le feu, le texte dit qu'il a pris puis qu'il a vu une vipère s'attacher à sa main. Et lorsqu'ils ont vu la vipère s'attacher à sa main, rappelons-nous que ces hommes-là, pour plusieurs, sont des gens qui sont sous la garde d'un centenier, ce sont des prisonniers. Puis ça, les gens le savaient sur l'île. C'est comme t'accueilles un bateau. Puis le bateau que tu accueilles, ce n'est pas des plaisanciers. Mais c'est des gens qui s'en vont comparer, qui s'en vont comparaître à Rome. Là. Puis là, à ce moment-là, quand il fait ça, Paul lève et puis il y a la vipère qui est là, Et ça dit, à ce moment-là, que les gens ont dit, « Assurément, cet homme est un meurtrier parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Regardez-moi bien ici un instant. Il faut juste attendre un peu avant de jouer. On va, dans un instant, je vais faire signe. Comprenez-moi bien ici, là. Cette parole-là est une parole vraie. C'est vrai que Paul était un meurtrier. Ou plutôt, le bon mot serait qu'il avait été un meurtrier. En fait, l'apôtre Paul va dire, alléluia, qu'il était celui qui avait donné son suffrage dans... et qu'il y avait celui qui avait simplement donné le OK pour que des chrétiens soient mis à mort et tout cela. La réalité de ce qu'ils sont en train de dire, c'est la justice s'est enfin faite. Parce que dans le « enfin faite », c'est la vipère est là, il va mourir. Le texte dit, juste dans la suite des choses, ça dit « les gens s'attendaient à le voir enflé et tomber mort subitement ». Lorsque ça se passait avec ce serpent-là, les choses se passaient rapidement. Puis là, quand ils ont vu être là, les autres vont dire, là, la mère semblait l'avoir épargné. Mais la justice s'étant enfin faite, ils vont mourir parce que cet homme est sûrement un meurtrier. Puis pour eux autres, c'est la mort. C'est ça la mort. Et la réalité dans ces situations dans lesquelles on se retrouve, on a besoin de savoir qui on est, même si les gens peuvent dire ce que l'on a été. Nous avons besoin de savoir ce que nous sommes. Et l'apôtre Paul, à ce moment-là, je vais vous dire ceci, n'était plus ou n'était pas un meurtrier. Il était un fils et un serviteur de Dieu sur l'île de Malte. Les gens, au prime abord, à ce qu'il prenait place, voyaient en lui, alléluia, un meurtrier. À cause de la situation qui prend place des fois, on peut penser que des situations qui arrivent à l'intérieur de nos vies, un peu comme Job, et des fois ça peut être certainement vrai que Dieu est en train de nous reprendre et nous corriger. Mais dans cette situation-là, Dieu, lorsque le serpent s'est attaché à sa main, c'était pas pour la condamnation, mais pour ouvrir une porte, alléluia, dans ce que Dieu était pour faire sur cette île-là. Le texte dit à ce moment-là, que lorsqu'ils se sont retrouvés dans la situation, Dieu est celui qui a entrepris. Dans Actes 27, 22, ça dit, non, je vais arriver à ça dans un instant, les gens vont dire que cet homme-là ne meurt pas et puis qu'il est comme un dieu. Et là, le miracle va prendre place sur l'île de Malte. Il va se retrouver à l'endroit où habite le chef de tout ça. Il va être guéri, quelqu'un de sa famille va être guéri, c'est le livre. Et le miracle de la conversion sur l'île de Malte prend place. Et à travers ça, Dieu est celui qui entreprend. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai mis une note ici. J'ai marqué ceci. Arrête de vivre comme un condamné. Vis dans ce que tu es aujourd'hui. Arrête de vivre comme un condamné, frère et sœur. Ça, c'était ce que tu étais avant que tu invites Jésus-Christ. C'était ce que tu étais avant que tu sois pardonné. C'était ce que tu étais avant que tu invites Jésus-Christ, que tu le reconnaisses comme le Messie. Mais maintenant, alléluia, c'était ce que Paul était. Il était celui qui était un meurtrier, qui condamnait les gens. Mais je veux vous dire ceci, à ce moment-là, Paul lui-même était condamné. Mais lorsqu'il est venu le temps, Dieu a fait de lui que le Seigneur était pour entreprendre et faire de Paul un serviteur et un fils du Dieu très haut. Et nous avons besoin de vivre dans ce que Dieu, alléluia, nous donne d'être aujourd'hui. On va chanter le premier chant. On va terminer avec le premier chant de ce matin. Tu peux juste jouer quelque chose de doucement à cet instant. Sinon. On a besoin de réaliser qui on est. Il y avait certaines choses ce matin, je vais juste les mentionner rapidement. Quand vous allez lire le texte à la maison, vous allez arriver à un moment où Paul va devoir manger. Ça fait déjà plusieurs jours. Ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est, des fois, c'est comme si tout arrête à l'intérieur de nos vies. Mais à un moment donné, alors qu'ils sont sur le bateau, Dieu dit aux gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, « Vous devez manger. » Et le texte dit, vous allez voir, ça dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Et là, il mentionne tout ça. Et ça dit à ce moment-là qu'il va dire aux gens de manger, de prendre le temps, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde de prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Ça dit, je vous invite donc à prendre la nourriture car cela est nécessaire. Et là, le terme est fort pour votre salut. Et savez-vous ce qui est intéressant, c'est la suite dans le verset 35, ça dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et là, il remercie Dieu pour le pain. Le pain qu'ils vont jeter à la mer. Mais avant, rends grâce à Dieu. Et publiquement, l'apôtre Paul avec foi. Parce que c'est une portion de foi là, qui prend place. Quand Paul dit ça, vous ne périrez pas personne. Vous pouvez aujourd'hui manger. Vous pouvez aujourd'hui vous réjouir. Vous pouvez aujourd'hui, alléluia, prendre la nourriture. Et publiquement, lui prend le pain, rend grâce et commence à manger. Ce que je vous ai dit, je le crois. C'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour moi. Et ça dit, il rompit le pain et se mit à manger. Et ça dit à ce moment-là, qu'est-ce que ça le fait? Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Son action est celui qui a fait, qui a entraîné tout l'équipage, toutes les personnes qui sont là. Et on a besoin, alléluia, de voir et d'accomplir. Il faut que la gloire de Dieu est, lorsqu'il prend place à l'intérieur de nos vies, de nos cœurs, la gloire de Dieu est celle qui va prendre place. Je veux juste te dire en terminant ce matin que Dieu, alléluia, est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et que des fois, quand tu as l'impression de la gloire de Dieu est en train de prendre place, peut-être que c'est toi, c'est pas l'île de mal que tu as prévu. C'est peut-être pas l'endroit que tu aurais aimé, mais je veux vous dire que le chemin divin, c'est aussi celui que tu n'as pas choisi. C'est passé. Le chemin divin, ce n'est pas nécessairement celui que sur lequel tu aurais aimé être. Tu aurais pensé être. Mais le chemin divin, alléluia, c'est celui dont Dieu contrôle. C'est celui dont Dieu dirige. C'est celui, alléluia, dont le Seigneur est en train de t'amener dans ce qu'il a planifié pour ta propre vie. Et on a besoin de lui faire confiance. On a besoin de savoir qu'il est là et qu'il prend soin, qu'il va être là. Et de comprendre qui on est, nous, à travers cette dimension-là. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose en terminant. On va chanter le premier chant qu'on a chanté ce matin. Et un chant de victoire et tout ça. Et le chant nous parle de comment Dieu est là, de comment le Seigneur est celui qui est fidèle, de comment le Seigneur est celui qui entreprend. Peut-être qu'on peut mettre les paroles de ce premier chant-là. Et lorsqu'on regarde cette dimension-là à l'intérieur de nos vies, ce matin, j'aimerais que tu célèbres que tu contrôles rien. C'est peut-être le temps d'arrêter. L'apôtre Paul aurait pu chialer, critiquer, puis dire « comment ça? » puis être tout ça. C'est peut-être le temps de commencer à célébrer que la meilleure chose qui est en train de prendre place dans ta vie, c'est justement, alléluia, que t'es pas en train de le contrôler, que t'es pas en train de le gérer, mais que Dieu, alléluia, est maître, que le Seigneur est celui qui peut faire, que même si le vent qui est doux, qui est là, peut prendre place, c'est qu'il y a simplement le vent qui est plus dur, qui est plus violent. C'est aussi le vent que Dieu se sert pour t'amener sur l'île de Malte. Parce que l'île de Malte avait besoin d'être évangélisée. Je vais vous dire ceci. Quand vous regardez sur la carte que je vous ai montrée ce matin, Malte, c'est tout petit par rapport à la place de ce qui est là. Paul et les autres ne l'avaient pas vu. Mais Dieu, oui. Dieu avait vu que dans ce voyage, de Paul, qui est le quatrième voyage, Dieu avait vu cet endroit-là pour s'arrêter, pour prendre un moment, pour que sa gloire puisse prendre place. Je veux dire que dans ta vie, c'est aussi vrai. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant ce matin et qu'on puisse célébrer ensemble, rendre gloire à Dieu, alléluia. Qu'on puisse le chanter avec conviction, avec foi vraiment ce matin et avec force. Alléluia, demandons au Seigneur et déclarant que Dieu est celui qui est là, rien ne peut nous séparer, même si je me suis éloigné, car ton amour demeure. L'amour de Dieu, alléluia, est celle qui nous conduit, qui nous dirige à l'intérieur de nos vies, de nos cœurs. Chantez-le avec foi. Peut-être que tu es dans un moment de ta vie où le vent souffle de tous bords et de tous côtés. Je veux t'encourager ce matin. Chante-le avec foi. Chante-le avec courage. Déclare-le pour ta vie. Déclare-le, alléluia, de ce que Dieu peut faire à l'intérieur de ta situation, que Dieu peut entreprendre à travers cette situation-là. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Chantons-le ensemble ce matin.
si je me suis éloigné, car ton amour demeure.
Alléluia.
Je fais encore tant d'erreurs, mais tes bontés se renouvellent à chaque heure, car ton amour demeure. Oui, d'âge en âge. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas, même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Oh, 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 oh. Ton amour demeure. Yeah.
Rien ne peut.
Rien ne peut nous séparer, non. Même si je me suis éloignée, car ton amour demeure. Je fais encore tant d'erreurs, mais tes bontés se renouvellent à chaque heure, et ton amour demeure. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas, même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Oh. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Et ton amour demeure, oh yeah. Ton amour demeure.
Oui, d'âge en âge.
Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas, même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Yeah. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Oh, oh, oh. Ton amour.
Fidélité dans nos vies. Ta grâce, c'est comment, Seigneur, tu es toujours fidèle. Travaille chaque situation. Seigneur, on sait combien nos vies sont celles qui t'appartiennent. Seigneur, que toutes choses sont entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui, on veut te dire combien on te fait confiance. Et pour chaque personne, chacun d'entre nous, Seigneur, dont le vent souffle et nous empêche, Seigneur, où les situations, Dieu, on veut simplement, alléluia, réaliser comment tu es le Dieu qui est là. Avec chacun d'entre nous. Seigneur, puisses-tu nous garder cette semaine dans toute situation particulière de nos vies. Que ta force et ta grâce, Seigneur, soient celles qui nous soutiennent. Et ce que Dieu, on puisse savoir, alléluia, Seigneur, qu'il y a peut-être une île, un endroit où tu es en train de nous amener, Seigneur, afin de faire la différence, afin que ta gloire puisse éclater. Seigneur, on se recommande à toi sur le chemin du retour. Seigneur, bénis notre sœur Hortense, sois avec elle. Seigneur, qu'il y ait la paix qui prenne place dans son cœur. La force, Seigneur, qui se renouvelle chaque jour dans la vie de notre sœur. Merci, Seigneur, de toutes choses. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.